Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
Nous allons parler de cette nuit des idées de la politique étrangère de la France. Nous sommes en compagnie de mes camarades Éric Biégala et Benoît Bouscarel. Pourquoi avez-vous décidé, Laurent Fabius, d'organiser cette nuit des idées qui aura lieu donc ce soir à partir de 18h en partenariat avec l'Alliance française?
Avec l'Institut français. Mais parce que c'est la première fois qu'on fait ça au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, physiquement, existe depuis Napoléon III. Et les salons du Quai d'Orsay ont vu passer beaucoup de gens et beaucoup de traités. Mais c'est la première fois qu'on organise cela avec un public large. Il y aura à peu près 1500 personnes, même s'il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites. Donc on va avoir un léger problème. Pourquoi ? Parce que la diplomatie insiste beaucoup sur la solution des crises, sur des grands problèmes stratégiques. J'ai insisté, vous le savez, sur la diplomatie économique aussi. Mais la diplomatie culturelle, la culture, c'est au cœur de la diplomatie. Et à la fois notre réseau éducatif, nos mouvements d'idées, la francophonie, etc. Et donc, en liaison avec l'Institut français, j'ai voulu monter cette soirée, cette nuit d'ailleurs, puisque ça se finira vers 2h du matin, en invitant toute une série de grandes personnalités étrangères pour montrer qu'il n'y a de culture que dans le dialogue et dans l'ouverture, et que la France est un pays qui est très très bien placé pour cela. D'ailleurs, nous sommes sur France Culture, mais je pourrais parler sur France Inter. Pourquoi ? Parce que c'est j'y réfléchis en venant, c'est triplement inter. C'est interdisciplinaire, puisqu'on va parler à la fois de la philosophie, de l'économie, de la santé, etc. C'est intergénérationnel, il y a des jeunes et des moins jeunes, et c'est international. Et la culture, c'est tout ça.
Bon, vous allez quand même rester sur France Culture,
Laurent Fabius. Avec plaisir.
Le rayonnement des intellectuels français aujourd'hui est discuté. On soupçonne, par exemple, notre scène intellectuelle de tirer vers la droite, vers les réactionnaires. Qu'en pensez-vous ? Quel jugement portez-vous ?
Vers le déclinisme aussi. Oui, écoutez, c'est un débat permanent. Je me souviens que même au moment où les intellectuels français rayonnaient à travers le monde de façon incontesté, Derrida, etc. Il y avait aussi de grandes contestations. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est justement à chaque fois, il y a un intellectuel français aussi, un intellectuel au sens large étranger. Après, le public sera juge. Prenons des exemples. Je crois que vous allez le recevoir sur votre antenne, et je vous en remercie beaucoup. Ce qu'on appelle Justice Breyer, c'est-à-dire le membre de la Cour suprême américaine, va débattre avec Robert Badinter sur l'avenir de la justice. Et ça va être passionnant, parce que ce sont deux personnalités qui, à la fois, ont exercé des fonctions juridictionnelles, qui, en même temps, ont réfléchi beaucoup sur la justice, et ils ont choisi, parmi les thèmes de réflexion, comment, dans une période marquée par le terrorisme, la justice et le droit peuvent prévaloir. Vous allez avoir aussi des débats qui vont être vraiment très intéressants. Je crois que vous recevez une grande sociologue
américaine. Saskia Sassen, il y aura également Souleymane Bachir Dagne.
Qui va débattre avec un homologue français. Il y aura au début de cette nuit des idées, un débat qui sera certainement passionnant entre Rem Koolhaas, qui est le grand architecte urbanisme, et puis Bruno Latour, et qui ont fait éclater chacun leur spécialité, l'un l'urbanisme, l'autre la sociologie. Et je pense que nous ne devons pas être arrogants, nous, Français, mais la France a cette tradition du dialogue avec les autres. Et je voudrais qu'à partir de cette nuit des idées, le concept de nuit des idées soit porté chaque année dans chaque pays, par la France.
On a l'impression, Laurent Fabius, qu'un écart s'est creusé entre les intellectuels et le gouvernement. Dans ce pays, qu'en pensez-vous ?
Oui, le mot est plutôt en ce sens. Enfin, les intellectuels, disons, c'est pas exactement la même chose. Les personnalités qui s'expriment dans les journaux.
Pourquoi ? Vous pensez que ce sont des pseudo-intellectuels ?
Ah non. Ne m'emmenez pas sur ce sujet glissant. Je vois à quoi vous faites allusion. Non, moi-même, d'ailleurs, par mon parcours, je me revendique comme un intellectuel, ayant le sens, le goût et la possibilité de l'action. Non, pour revenir à votre question... Contre le gouvernement, bon, la fonction d'un intellectuel, c'est pas d'applaudir nécessairement le gouvernement. Hein, mais c'est vrai qu'il y a, c'est un effet de mode peut-être, ou plus profond qu'un effet de mode, une tendance à considérer que les idéaux de la gauche sont maintenant dépassés et qu'il faut aller davantage vers la droite. Mais vous connaissez le mot de Cocteau sur la mode. Et d'autre part, je pense que ça va être un appel aux intellectuels se revendiquant des idées progressistes à approfondir leurs propres pensées.
En ce moment même, en France, le président Rouhani, le président iranien, est en visite. Cela signifie-t-il que l'Iran soit à nouveau fréquentable pour vous, Laurent Fabius ?
Mais écoutez, en tout cas, j'ai fréquenté son ministre des Affaires étrangères pendant déjà depuis déjà 3 ans et demi, puisque avec lui et les membres permanents du Conseil de sécurité, vous rappelez que nous avons abouti à un accord sur le nucléaire iranien, qui, et c'est pas un hasard, est du 14 juillet 2015. Pourquoi c'est pas un hasard ? Parce que la négociation se poursuivait, ne finissait absolument pas. Et j'ai dit à mes collègues, nous étions 6, écoutez, le 14 juillet, c'est la fête nationale, moi je m'en vais. Bon, et nous avions quasiment épuisé l'ordre du jour, donc historiquement, ce sera, d'un point de vue mnémotechnique, facile. Bon, mais pour être sérieux, pour aller sur le fond, nous avons endigué, et c'était un risque considérable, le risque que les Iraniens possèdent l'arme nucléaire. C'est l'accord, donc, je vous disais, du 14 juillet 2015. À partir de là, c'est vrai que l'Iran est revenu davantage dans la communauté internationale. Ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord sur tout, par exemple sur l'action en Syrie, sur l'action en Liban, etc. Mais nous avons levé, nous levons les sanctions économiques et nous discutons avec l'Iran. Et le voyage du président Rouhani, avec une délégation extrêmement nombreuse, s'inscrit dans ce cadre. Nous l'avions déjà rencontré, le président de la République l'avait rencontré à l'étranger. Moi-même, je suis allé en Iran il y a quelques mois. Et là, ce voyage, c'est l'occasion de parler de tous les sujets, c'est-à-dire les sujets internationaux, et notamment ce qui se passe dans la région, du Proche et du Moyen-Orient, de parler aussi de nos relations bilatérales, de parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, de parler économie, et... probablement aussi, pas seulement de parler, mais d'essayer d'agir.
Éric Diégala.
Concrètement, Hassan Rouhani, donc, est là à partir d'aujourd'hui. Est-ce que la France va lui demander d'agir, de peser, d'une certaine manière, sur ce régime de Bachar al-Assad, dont il est un des principaux parrains, pour que cette négociation débute, et qu'une négociation débute avec des buts relativement clairs et définis, ce qui est... quelle est la position de la France là-dessus ?
Alors, d'abord, sur votre première question, bien sûr qu'on va parler du conflit syrien. Quand je dis conflit, le mot est inadéquat. C'est un drame épouvantable. 260 000 morts, plusieurs millions de personnes syriennes se trouvant à l'étranger, des drames épouvantables, y compris au moment où nous parlons. Les Iraniens sont un acteur important parce que, soit directement, soit à travers le Hezbollah, ils interviennent au soutien de M. Bachar el-Assad. Ce ne sont pas les seuls, il y a aussi les Russes. Et la France, son objectif est tout à fait simple dans ce domaine que dans d'autres, c'est sécurité et paix. Or, il peut y avoir de sécurité et de paix que s'il y a un accord politique, d'où la négociation. Hier, puisque nous sommes dans le temps réel de l'histoire, hein, nous sommes en train de bâtir l'histoire, j'ai eu successivement au téléphone mon collègue américain, j'ai eu le négociateur de l'ONU, Stéphane de Mistura, j'ai eu le chef de l'opposition modérée, qui s'appelle M. Hijab, et ce matin, juste après vous avoir quitté, j'ai eu au téléphone Sergueï Lavrov, le russe. Bon, ça fait partie des principales parties prenantes. Où en sommes-nous? Monsieur de Mistura a envoyé les lettres d'invitation.
Dont une lettre d'invitation, on va dire, aux Kurdes, ce qui n'était pas véritablement
la chose là-haut.
Ce sont les forces syriennes démocratiques, dont les deux tiers...
Écoutez, ce qu'on appelle le PYD, qui est le groupe kurde qui faisait le plus de problèmes, Monsieur de Mistura m'a dit qu'il n'avait pas envoyé de lettre d'invitation.
Et... Pas lui directement, mais disons...
Mais il y a plusieurs problèmes qui se posent, il y en a au moins trois. Le premier problème, c'est qui participe à ces négociations. Et là, il faut être clair, vous me demandez la position française. Nous, nous considérons que du côté du gouvernement syrien, c'est le gouvernement qui choisit sa délégation. Du côté de l'opposition, il y a un groupe qu'on appelle le groupe de Riyad, qui est représentatif. Et c'est lui qui doit être le négociateur et... C'est ce qui m'a été confirmé par M. de Mistura, même s'il peut y avoir d'autres personnes. Pardon. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est, en ce moment même, il y a des bombardements, il y a des villes qui sont affamées. Il est évident que la négociation est très difficile tant qu'il y a cette situation humanitaire.
Justement, Laurent Fabius, vous avez...
Attendez, je vais jusqu'à la troisième condition, si vous le permettez. Et la troisième condition, c'est de quoi... Enfin, condition, troisième nécessité. De quoi va-t-on discuter? Nous pensons qu'il faut discuter de tout, et en particulier de ce qu'on appelle la transition politique. Et j'ai eu donc M. Hijab, qui est le patron de l'opposition, enfin ce qu'on appelle le groupe de Riyad, qui va répondre à Ban Ki-moon et à de Mistura ce matin. Et ce que j'ai compris, enfin la position de la France, même si nous ne sommes pas directement dans la négociation, nous l'entourons, c'est oui à la négociation, parce qu'il faut bien trouver une solution politique. Et en même temps, il y a des précisions à apporter sur toutes les questions que je viens d'aborder, c'est-à-dire qui participe vraiment, qu'est-ce qui est fait sur le plan humanitaire. Et de quoi va-t-on parler? Donc, négociation plus précision.
Vous avez déclaré « Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre ». Est-ce que vous maintenez ces propos, Laurent Fabius?
Je crois avoir déclaré cela après avoir visité un camp de réfugiés qui était particulièrement effrayant et où les personnes qui étaient là-bas mettaient en cause d'une manière fondée directement Bachar al-Assad. Maintenant, sur le fond, la question est... comment arriver à une Syrie libre, indépendante, qui ait l'intégrité de son territoire, et où chacun, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées, puisse vivre en paix. Bon. Si on veut arriver à ça, la position constante de la France est de dire qu'il faut une transition politique, un changement politique, et on ne voit pas, à la fois pour des raisons morales et pour des raisons d'efficacité, comment M. Bachar al-Assad, qui est le principal responsable de ces 260 000 morts dont j'ai parlé, on ne voit pas comment M. Bachar al-Assad pourrait incarner l'avenir de la Syrie. Voilà ce que ça veut dire, au-delà de telle ou telle expression. Et donc, la négociation, dont nous espérons qu'elle va commencer, c'est-à-dire, oui, la négociation, mais en même temps, il faut des précisions, doit traiter de la question de la transition politique. C'est ce qui était contenu dans ce qu'on appelle l'accord de Genève 1. J'étais présent, c'est moi d'ailleurs qui ai en partie tenu la plume. C'est ce qui figure dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les décisions que nous avons prises à Vienne.
Benoît Bouscarel.
Une question peut-être qui fait le lien entre l'international et la culture. Votre collègue Fleur Pellerin, ministre de la Culture, doit prendre aujourd'hui, Laurent Fabius, une décision à propos d'un documentaire qui s'appelle Salafiste, documentaire présenté comme violent et ambigu. Faut-il, à votre avis, interdire ce documentaire, le censurer?
Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas vu ce documentaire, et donc je ne sais pas exactement comment le... C'est un documentaire pour le cinéma ou un documentaire pour la télévision?
Pour le cinéma. Pour le cinéma, qui présente la situation au Mali au moment de l'invasion djihadiste. Documentaire qui a servi à la réalisation du film Timbuktu.
Oui, je ne peux pas vous donner de sentiments n'ayant pas vu ce document. Ce serait tout à fait... déplacé de ma part. Mais si on étend la question, parce que je pense que c'est ça qu'il y a derrière votre interrogation, le combat contre le terrorisme doit être mené non seulement sur le terrain, à la fois d'un point de vue sécuritaire, par les armes, mais aussi d'un point de vue idéologique. Bon. Et il faut expliquer, il faut, déstructurer, il faut arriver à faire comprendre les mécanismes et les dérives. Et donc, c'est pas simplement un combat sur le terrain et par les armes. c'est aussi un affrontement des pensées. Alors, la difficulté, j'imagine que c'est ça le sens de l'interrogation que vous formulez, c'est qu'il faut à la fois montrer les mécanismes qui sont à l'œuvre et en même temps ne pas se faire l'apologue, même si l'on est indirectement ou involontairement.
C'est le cœur de la question. De,
voilà. Bon, mais ça,
mais
il faut voir
vous,
le document.
Laurent Fabius, si il faut voir il le est document. Possible d'expliquer en tout cas le terrorisme sans le justifier.
Alors là, vous faites allusion aussi à d'autres phrases. Bon, je ne veux pas me lancer dans ce type de...
Sans se lancer dans les polémiques, oui. Comment lutter contre un ennemi qu'on ne comprend pas?
Ah ben, il faut bien sûr comprendre les mécanismes par lesquels il arrive à en régimenter. Là, je vais vous faire part d'une anecdote personnelle. Parmi les fonctions du Quai d'Orsay, il y a le fait que nous sommes chargés, parfois avec le ministère de la Défense, de nous occuper de nos otages pour aller les récupérer. Bon, c'est une tâche très lourde, très difficile, avec souvent des réussites et malheureusement parfois des échecs. Et à plusieurs reprises, je suis allé récupérer des otages. Donc, ils étaient otages depuis... alors, ça variait, parfois quelques jours, parfois quelques années. Et quand c'était très long, évidemment, il y avait un vécu qui était extrêmement lourd. Et j'ai discuté, en les ramenant en avion, avec ces otages. Et je leur disais toujours, mais de quoi parliez-vous? Et quels étaient les mécanismes d'enrégimentement? Et c'était toujours extrêmement simple, les réponses qu'ils me faisaient. Il s'agit de jeunes, là donc c'était les gardiens d'otages, et à ces jeunes, il était expliqué, les Occidentaux sont sur notre territoire, c'est parce qu'ils sont sur notre territoire qu'il y a des problèmes, il faut donc les tuer, les évacuer, et comme ça vous n'aurez plus aucun problème.
Merci Laurent Fabius d'avoir été avec nous pour présenter cette Nuit des idées, un instrument donc de la diplomatie culturelle française qu'on retrouve cette journée sur France Culture. Il est 7h57.